Il est 12h30 sur France Culture. Le journal vous est présenté par Antoine Mercier.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La bataille contre le projet de loi El Khomri fait rage sur Internet. La ministre du Travail adresse ce matin un mail à tous les signataires d'une pétition qui a recueilli 600 000 signatures contre le projet de réforme du droit du travail. Précision dans un instant avec Frédéric Seyss. Les Iraniens votent à un double scrutin pour ou contre la poursuite de la politique d'ouverture du président Hassan Rouhani. Nous appellerons sur place Ludovic Piétenu. En Syrie, nous sommes quelques heures de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu ce soir à minuit. L'aviation russe bombarde depuis ce matin plusieurs bastions rebelles. Reportage sur place de Valérie Crova. Les ministres des Finances du G20 se retrouvent à Shanghai au chevet de l'économie mondiale avec les craintes d'une forte dévaluation par Pékin de sa monnaie qui alimente l'instabilité des marchés financiers depuis plusieurs mois maintenant. Analyse d'Héloïse de Neuville. Un rapport d'expertise des Nations Unies sur la disparition des pollinisateurs, le déclin des abeilles, des papillons ou des oiseaux essentiels donc à la pollinisation des cultures menacerait une partie de la production agricole mondiale. L'explication de Véronique Robérotte. Et puis le dernier invité de notre semaine sur la politique autrement, le philosophe Pierre Dardot, dans la dernière partie de la Grande Table, Caroline.
Partant de ce sentiment que les religions sont au centre des débats dans nos sociétés, même si cela ne s'accompagne pas d'un regain de la pratique religieuse, nous avons eu envie de nous demander quelle était la raison de cette plus grande visibilité du religieux dans l'espace public, et puis peut-être comment en sortir. Pour cela, nous nous sommes tournés vers le dernier numéro de la revue Esprit, qu'a coordonné et dans lequel a largement contribué notre invité Jean-Louis Schlegel. Donc les religions dans l'arène publique, c'est le numéro de dossier de la revue Esprit et c'est notre sujet de dernière partie.
Le champ des batailles politiques peut-il se déplacer sur Internet? Pour expliquer son projet de loi de réforme du droit du travail, le gouvernement a pris hier l'initiative de créer un compte Twitter spécial car nous sommes maintenant un peu plus d'un mois de son passage au Parlement. La bataille autour de ce projet El Khomri fait rage. En 7 jours, une pétition en ligne contre le projet a battu tous les records en France avec déjà plus de 600 000 signatures et ce n'est que vendredi dernier qu'elle a été lancée, notamment par la militante féministe Caroline De Haas, sous le titre Loi travail, non merci. Et ce matin, donc, la ministre du Travail adresse un email à tous les signataires pour répondre aux arguments soulevés. Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour.
Donc on assiste vraiment à un débat de fond sur la question sur Internet.
Oui, c'est en fait un autre temps politique qui est en train de se dessiner au moment où les parlementaires sont en vacances, au moment où l'intersyndicale peine à se mettre d'accord sur une journée d'action. La contestation s'amplifie sur Internet. 620 000 signatures à l'heure où on parle sur cette pétition en ligne. C'est tout bonnement le record absolu sur cette plateforme change.org dédiée à la cybermobilisation. Le texte de la pétition égrène les points du texte El Khomri les plus contestés. Encadrement des indemnités de licenciement, référendum d'entreprise pour modifier les conditions de travail, possibilité de diminuer par accord la majoration des heures supplémentaires. Il faut ici préciser qu'il s'agit d'un avant-projet de loi transmis au Conseil d'État et non de la loi qui sera présentée en Conseil des ministres le 9 mars. Myriam El Khomri a donc pris la plume et bénéficié d'un droit de réponse qui est garanti par la plateforme. Dans un texte d'une quarantaine de lignes, elle se félicite du débat qui s'est ouvert, mais s'élève contre, je cite, les affirmations fausses ou incomplètes qui circulent. S'ensuit un argumentaire qui ne détaille pas ces affirmations qui seraient fausses, mais qui rappelle les objectifs de la loi, rendre les entreprises plus compétitives, introduire un compte personnel d'activité, etc. Ce droit de réponse a été automatiquement envoyé par la plateforme aux 600 000 signataires.
Alors, il y a évidemment la question de savoir, au-delà de cette mobilisation qui atteint des records, est-ce qu'elle peut vraiment influer sur la réalité politique?
En tout cas, le gouvernement la prend visiblement très au sérieux. Il a complètement changé sa contre-offensive. Souvenez-vous, la semaine dernière, communication à l'ancienne, avec journal télévisé, matinale radio, déplacement dit sur le terrain en Alsace, casque de chantier et visite soigneusement préparée pour Manuel Valls, Myriam El Khomri et Emmanuel Macron. Force est de constater que ça n'a pas freiné la mobilisation en ligne. Outre la pétition, un mot-clé a fait partie des plus utilisés dans la journée de mercredi. On vaut mieux que ça. Des milliers de témoignages sur les difficultés rencontrées au travail, la précarité et les patrons indélicats. Alors la communication gouvernementale s'est à son tour déportée sur Internet. Tribune de Manuel Valls sur Facebook, argumentaire du type vrai faux émis par le gouvernement. Et donc hier soir, ce compte Twitter au nom de la loi travail, pour tout dire, dans une twittosphère, comme l'on dit, très hostile à la loi. Ce nouveau compte a donné l'impression de l'aventurier qui tente de défricher la forêt amazonienne aux sécateurs. Le compte officiel a été d'ailleurs immédiatement pris en grippe et détourné par des centaines de messages. Toute la question, c'est de connaître maintenant l'articulation entre cette cybermobilisation et la mobilisation sociale plus traditionnelle, manifestation, grève. À quel point le fait de cliquer pour une pétition en ligne, d'envoyer un tweet se transforme-t-il en rapport de force de nature à faire évoluer un texte? Les plus enthousiastes citeront la révolution tunisienne qui a été initiée sur Facebook. Les plus sceptiques relèveront que les centaines de milliers de signatures contre le traité transatlantique n'ont pas eu d'effet majeur jusqu'à présent. C'est l'inconnu pour ce mouvement social 2.0 made in France pour lequel il n'existe pas de jurisprudence.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. On salue notre invité Pierre Dardot. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'un clic peut changer un rapport de force?
Un clic en lui-même, non, bien évidemment. Mais je crois que dans la mobilisation qui est en train de prendre forme sur Internet et sur les réseaux sociaux, il y a trois aspects à bien dégager. Il y a d'abord des témoignages d'expériences qui sont parfois assez prenants, assez glaçants même, de gens qui ont été abîmés subjectivement dans leur propre vie par des managers, justement, qui les ont remerciés en leur disant que, par exemple, ils n'étaient pas suffisamment agressifs. Il y a un deuxième aspect qui a été souligné, enfin, peut-être insuffisamment, qui est le décryptage maintenant auquel se livrent un certain nombre d'internautes, article par article, du projet de loi. Et ça, ça rappelle une certaine effervescence en matière de repolitisation qui, toute proportion gardée, donc était celle de ce débat autour du traité européen en 2005. Et puis, il y a un troisième aspect, qui est ce que vos collègues de France Inter appellent la mobilisation 2.0, c'est-à-dire ce qui a été soulevé tout à fait à la fin de la personne qui vient de parler avant moi. Et c'est la question de la mobilisation, de l'échéance, par conséquent, qui est celle du Conseil des ministres du 9 mars, puisque l'intersyndicale, elle, attend très prudemment le 31, mais le 31, beaucoup de choses seront faites. Et là, ce qui paraît important, c'est qu'il y a un réseau de collectifs qui tend à se constituer pour appeler à des initiatives dès le jour du Conseil des ministres, le 9 mars.
Voilà, on reparle de tous ces collectifs tout à l'heure dans la séquence interview. Merci beaucoup, Pierre Dardot.
Plus de 55 millions d'Iraniens appelés aux urnes aujourd'hui pour renouveler les deux principales instances du pays, toutes deux dominées par les conservateurs, le Parlement et l'Assemblée des experts chargés de nommer et au besoin de remplacer le guide suprême.
Alors ce dernier, Ali Khamenei, a été le premier des Iraniens à voter dans une mosquée située dans le complexe où il réside à Téhéran. Tout le monde doit voter, a-t-il dit, tous ceux qui aiment l'Iran, la République islamique, la grandeur et la gloire de l'Iran, avant d'affirmer « nous avons des ennemis ». On sait que le guide exprime régulièrement sa méfiance à l'égard des grandes puissances, des puissances occidentales. En premier lieu, les États-Unis accusés de chercher à s'infiltrer en Iran. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Antoine.
Quel rôle joue donc cette idéologie nationale et religieuse également dans cette élection, dans ce scrutin ?
Eh bien, les sanctions infligées à l'Iran pendant plus de 10 ans n'ont fait que donner un peu plus de consistance à la rhétorique de la révolution islamique et au discours du guide suprême, le Valier Fari, comme il se nomme, celui qui est au-dessus de tout en Iran. Ali Khamenei cultive quasiment au quotidien ses attaques contre l'Occident, surtout le grand et le petit Satan, respectivement les États-Unis et la Grande-Bretagne. Cette semaine, c'était la BBC en persan qui était accusée de vouloir peser sur le résultat de ce scrutin. Les conservateurs invités, même avant-hier, à dire lors de cette élection, eh bien non à la Grande-Bretagne. Tous ceux qui ont, par le passé, soit dominé, soit comploté contre l'Iran, c'est une réalité du siècle dernier, avant la révolution islamique, et c'est tout de même bien ancré dans la tête des plus vieilles générations d'Iraniens. Et encore, je croisais ce matin un homme d'un peu plus de 70 ans. « Je suis descendu dans les rues il y a 37 ans pour crier des slogans contre le roi », me disait-il. Mais en fait, on est allé vers le pire. Il réagit à un propos du guide prononcé ce matin, quand ce dernier disait « Il faut voter les yeux ouverts parce que le pays a des ennemis ». Eh bien, parler d'ennemis, me disait-il, on a tous des ennemis, ça n'est pas le jour, c'est au contraire le moment de s'unir. Cet homme a voté réformateur et modéré. D'autres sont plus sensibles à cette sémantique. Samad, ce commerçant croisé ce midi, faisait part de son scepticisme à l'égard de la politique d'ouverture de Rouhani. Heureusement, dit Samad, qu'il obéit au conseil du guide. Alors oui, pour un peu d'ouverture, mais on se méfie quand même des Occidentaux, parce que c'est sûr qu'ils ne nous veulent pas du bien, on ne leur fait pas confiance. C'est l'Occident qui soutient l'Arabie Saoudite et les massacres au Yémen. Et pourquoi ne disent-ils rien contre toutes ces injustices, s'agaçait Samad. Cette élection sert finalement à trancher d'une certaine façon entre d'un côté une parole belliqueuse et de l'autre ce que les Iraniens surnomment la politique de la politesse et du silence pour qualifier des réformateurs comme Rafsanjani ou Rouhani.
Ludovic Piétenu, merci beaucoup, en direct de Téhéran.
En Syrie, à quelques heures de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, l'aviation russe bombarde depuis ce matin plusieurs bastions rebelles.
En principe, cette trêve doit entrer en application ce soir à minuit. Ses modalités sont très complexes. Le régime de Bachar el-Assad, l'opposition armée et les forces kurdes ont bien confirmé qu'elles avaient l'intention de respecter ce cessez-le-feu. Mais ce dernier est partiel, rappelons-le, puisqu'il exclut à la fois l'État islamique, le front al-Nosra, qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui occupe de vastes espaces, de vastes territoires, et qui vont continuer par conséquent à être visés par les opérations du régime, les frappes russes et puis celles de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Point de vue sur ce cessez-le-feu et sur la situation du docteur Bassam Abou Abdallah, professeur de sciences politiques à Damas, rencontré à Damas donc par Valérie Crova.
It's a step because the situation is very complicated.
C'est une étape car la situation est très compliquée. D'un côté, vous avez l'armée syrienne, les Russes, le Hezbollah et l'Iran. Alors que de l'autre, vous avez des centaines de groupes. Certains sont l'État islamique et Al-Nusra. On sait que ce sont des groupes terroristes, mais la question concerne les autres groupes appelés l'opposition modérée. Si vous acceptez une solution politique, nous vous laisserons votre mot à dire. Sinon, on vous considérera comme des terroristes et on vous attaquera. Les groupes terroristes dans différents endroits sont mélangés. Vous ne savez pas qui est avec Al-Nusra. Parfois, ils étaient avec Al-Nusra et ils sont devenus l'État islamique. Le deuxième jour, l'armée syrienne libre. Le troisième jour, on ne sait pas. La situation évolue. On doit savoir qui sont ces groupes pour les exclure des frappes russes et je pense que c'est difficile pour les Américains. Mais je pense que c'est une étape. On est en face d'un processus compliqué qui concerne non seulement le futur des Syriens mais aussi l'avenir de la région.
Voilà, Bassam Abou Abdallah, propos recueilli à Damas par Valérie Crova. Un mot de l'économie mondiale, puisque les ministres des Finances du G20 se retrouvent à Shanghai, au chevet de l'économie précisément, qui est ébranlée par une reprise atone, l'essoufflement des émergents, la chute des cours des matières premières, on en parle depuis plusieurs semaines. Nous sommes à quelques heures donc de cette réunion des grands argentiers en Chine. Le ministre français Michel Sapin affirme que l'économie mondiale connaît des difficultés réelles, mais qu'elle n'est pas en crise. Malgré tout, il y a des craintes très fortes d'une dévaluation par Pékin de sa monnaie qui alimente l'instabilité des marchés financiers depuis plusieurs mois. Héloïse de Neuville.
Oui, pour comprendre pourquoi la Chine dévalue sa monnaie, il faut revenir sur la situation de son économie. En 2015, sa croissance s'est établie à 6,9%. Jamais elle n'avait été aussi faible en 15 ans. En fait, le modèle chinois est en pleine transition. De grands sous-traitants industriels, l'usine du monde, comme on l'appelle, l'économie chinoise mue vers une économie tournée vers son marché interne et davantage orientée sur les services. Selon les économistes, cette transition peut prendre une décennie. Et en attendant, pour survivre à ce ralentissement, la Chine pratique la dévaluation compétitive. Concrètement, le pays abaisse les taux de change de sa monnaie, le yuan, pour doper ses exportations en berne. Mais la Chine est loin d'être la seule à user et abuser de cette pratique. Les États-Unis et l'Europe font également tourner la planche à billets. Et c'est précisément un des grands sujets de ce G20 financier. Il faut éviter que cette guerre des monnaies entre grandes puissances arrive, pour deux raisons. D'abord parce que chacun s'appauvrit. Vendre à une monnaie plus faible, c'est à terme créer moins de richesses. Ensuite, car la dévaluation provoque l'instabilité des marchés financiers. Il l'interprète comme un signal de faiblesse inquiétant pour l'économie qui la pratique. Tous les participants attendent donc une clarification. Où va-t-on en termes de politique monétaire? Pas sûr que de ce G20 sorte une réponse, car comme l'admet le secrétaire américain au Trésor, même si les perspectives sont moroses, il ne faut pas s'attendre à une réponse de crise dans un environnement sans crise.
Évidemment, on voit l'intérêt à ne pas être en concurrence, et en même temps la concurrence finalement qui règne en maître sur ces marchés. Héloïse de Neuville, merci beaucoup. On en redira peut-être un mot tout à l'heure avec notre invité.
Les scientifiques chargés par l'ONU d'évaluer le recul de la biodiversité lancent un cri d'alarme ce matin sur la disparition des pollinisateurs, abeilles, papillons et autres oiseaux qui menacent une partie de la production agricole mondiale.
Voilà, cette disparition, effectivement, le groupe d'experts n'émet pas de strictes recommandations, rappelle les moyens déjà largement connus pour créer un monde plus favorable à ces pollinisateurs, présence accrue de fleurs sauvages à proximité des cultures, baisse de l'utilisation des pesticides et évidemment un meilleur contrôle aussi des parasites. Véronique Roberotte.
Alors avant d'évoquer les solutions archi connues, le constat fait par ce GIEC de la biodiversité, c'est l'équivalent du groupement d'experts sur le climat, il y a 20 000 espèces de pollinisateurs, des sauvages, les abeilles, les bourdons, les papillons, vous l'avez dit, les chauves-souris, les oeiseaux également. Ils font un sacré travail puisque 5 à 8% de la production agricole mondiale sont directement dépendants de l'action de ces pollinisateurs. Ça représente entre 200 et 500 milliards d'euros de revenus agricoles. Les pollinisateurs assurent un service écologique gratuit qui produit une vraie richesse économique. Trois quarts des rendements et de la qualité des cultures mondiales de fruits, de céréales, de café, de chocolat également. Je ne retrouve plus où j'en suis. Eh bien, trois quarts de ces rendements dépendent des pollinisateurs. Ils sont en disparition un petit peu partout, en chute libre comme moi en Europe, avec des disparitions massives d'abeilles sauvages et domestiques et de papillons de plus de 30%. Responsable l'agriculture intensive avec ses pesticides, le changement climatique aussi bien sûr qui affaiblit les colonies, des espèces invasives comme le frelon asiatique en France qui a décimé des ruches entières. Le groupe d'experts des Nations Unies sur la biodiversité rappelle des évidences, réduire l'utilisation des molécules chimiques dans l'agriculture sans aller jusqu'à interdire l'utilisation des plus mortels d'entre eux pour les abeilles, les néonicotinoïdes. Il préconise aussi de laisser auprès des cultures des bandes d'herbes, des fleurs sauvages pour que les insectes viennent, prolifèrent et travaillent à proximité. Agir aussi sur les parasites comme le varroa destructeur, c'est un grand tueur de colonies d'abeilles à travers le monde. Le plus grand tueur restant bien sûr l'homme et son agriculture chimique, si bien que se pose depuis des années, on va peut-être y arriver, la question de savoir s'il ne faudrait pas donner un prix aux abeilles à leur travail rendu gratuitement pour mieux la protéger.
Véronique Crebérotte, merci beaucoup. Pierre Dardot, les abeilles ont inspiré les philosophes, on connaît la fable des abeilles. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ce phénomène aussi comme une métaphore sociétale? La pollinisation, c'est ce qui fait le commun et finalement ce commun disparaît dans la nature et dans la société en même temps. Et en même temps, on voit bien qu'il y a aussi ces marchés qui s'organisent autour de la nature.
Oui, c'est ça qui est particulièrement grave parce que vous avez parlé dans un premier temps de services gratuits. Or, précisément, ce qui tend à se généraliser aujourd'hui de la part d'un certain nombre de décideurs, de banquiers, c'est une logique qui est celle de ce qu'ils appellent les services écosystémiques, mais des services écosystémiques qui seraient bien sûr, titrisés, c'est-à-dire auxquels on donnerait une valeur monétaire. Il faut comprendre qu'il y a là quelque chose d'assez grave qui se joue parce que on donne une valeur monétaire à ce qui n'est pas le produit du travail humain. Et on parle d'un capital naturel. Il y a des biobanques qui se spécialisent là-dedans. Et c'est extrêmement grave. Là, il y a une financiarisation de la nature qui va bien au-delà de ce qu'on appelle la marchandisation. Parce que c'est la biosphère qui est presque considérée comme quelque chose de titrisable.
On vous retrouve donc juste après ce dernier sujet du journal, cette découverte assez extraordinaire des plus anciennes tombes musulmanes de France, découverte à Nîmes, des fouilles qui ont permis donc de trouver trois tombes musulmanes, de loin les plus anciennes découvertes dans le pays et qui sont les premiers indices de la présence de communautés de musulmans dans le sud du pays au début du Moyen-Âge. François Madeuf.
Oui, la découverte de ces trois sépultures confirme des choses qu'on connaissait déjà par les écrits de l'époque, la présence des musulmans dans le sud de la France au début du 8e siècle, mais on en apprend un peu plus sur la nature de leur présence. Trois personnes enterrées selon des rites typiquement musulmans, ça veut dire qu'il devait y avoir toute une communauté qui vivait sur place. Yves Glaise est archéologue pour l'Institut National de Recherche Archéologique. C'est lui, avec son équipe, qui a découvert ces tombes.
On pouvait, par exemple, avec des monnaies musulmanes, suivre le long des axes des voies le passage des armées musulmanes, on supposait. Mais là, on a vraiment les indices forts d'une installation pérenne, au moins sur plusieurs années, pour qu'il y ait inhumation suivant les rites, avec au moins un sujet qui aurait peut-être plus de 50 ans, donc qui a peut-être vécu à Nîmes plusieurs années. Ce ne sont pas seulement des passages rapides des troupes musulmanes, arabes, sur le territoire français.
Et autre information importante, la disposition de ces tombes qui laisserait penser que cette communauté vivait de manière plus ou moins pacifique avec les communautés chrétiennes sur place.
Ces tombes, on ne les a pas trouvées dans des cimetières, mais quelques centaines de mètres à côté, on a aussi d'autres tombes qui sont aussi isolées et qui sont inhumées avec des pratiques qu'on pourrait qualifier de chrétiennes.
Les premières conclusions des archéologues, c'est qu'on est en fait loin du cliché des livres d'histoire, des chrétiens qui boutent les musulmans hors de France. En réalité, les relations entre ces peuples étaient bien plus complexes. Cette découverte va donc ouvrir la voie à des études plus approfondies. Et c'est ce qui est formidable, c'est quand même, il reste en fait énormément de choses à apprendre sur cette époque.
Merci beaucoup François Madeuf. On reparlera de religion, notamment dans l'arène publique, dans la dernière partie de la Grande Table. Mais on se retourne d'abord vers Pierre Dardot, notre invité de cette semaine, pour évoquer les nombreux mouvements, les regroupements qui agitent notre société dans le but de tenter de ressaisir la chose politique. Dans un texte signé par un collectif critique, vous dites « Nous ne sommes pas des experts, nous ne voulons pas parler en experts, mais en citoyens qui subissons, comme les autres, l'impossibilité de participer activement aux choix qui nous concernent dans le travail travail, dans la ville, dans la société, dans le monde, des professionnels de la politique décident à notre place, des oligarchies industrielles et financières, etc., des normes économiques supposées indiscutables, des traités, la technocratie, bref. Le citoyen n'aurait plus prise sur les événements. C'est un constat, je crois, qui est assez général, Pierre Dardot. Pourquoi cette initiative et qu'est-ce que l'on peut faire ?
Bien, ce que l'on peut faire, c'est d'abord commencer peut-être par réveiller la parole des citoyens elles-mêmes pour que ceux-ci soient pris en charge par eux, parce que la détermination de l'intérêt commun, finalement, est une affaire commune. Il y a quelque chose qui est particulièrement irritant, qui est même révoltant, c'est que précisément l'intérêt commun est devenu, la définition de l'intérêt commun est devenue le monopole d'un certain nombre d'experts ou de professionnels. On parle précisément des experts dès le début. De notre part, c'est une revendication de non-expertise, parce que nous estimons que ça n'est pas l'affaire des experts.
Vous êtes quand même des professeurs ou des intellectuels.
Alors, certains d'entre nous, pas tous, sont des professeurs ou des intellectuels, mais nous ne mettons pas en avant nos compétences parce que précisément nous estimons que ça n'est pas une affaire de compétences professionnelles particulières. Nous pouvons bien sûr nous servir de ces compétences, mais il y a quelque chose qui nous paraît beaucoup plus élevé que les compétences de tel ou tel ou que l'expertise supposée de tel ou tel, c'est précisément la participation à la définition ou à l'élaboration de l'intérêt commun. Et ça, encore une fois, nous estimons que ça n'est pas du tout une affaire d'expertise. Et je vais même aller plus loin en disant qu'il y a aujourd'hui quelque chose de très menaçant, qui est une confiscation de l'expérience par l'expertise. Or, les deux mots, le mot d'expertise vient du mot expérience, mais on considère que l'expérience de certains,
par exemple
une expérience managériale, une expérience bancaire, par exemple, pourquoi pas d'un Macron, ou il y en a d'autres, ça a été Monti ou Draghi à un certain moment donné, on parlait beaucoup du gouvernement des experts, et on faisait comme si l'expertise dans tel ou tel domaine était un titre à exercer le pouvoir politique. Ça, c'est particulièrement inacceptable.
Alors, reprendre la parole, s'exprimer, oui, on a entendu toute cette semaine des personnes qui vantaient notamment ce qu'on appelle la démocratie participative, sur Internet particulièrement. Est-ce que ça, c'est vraiment, est-ce qu'on arrive à du commun avec ça, ou est-ce que c'est simplement une somme d'intérêt très particulier, individualisé?
Oui, il y a beaucoup, évidemment, d'intérêts individuels qui sont en jeu. Tout cela peut éventuellement se combiner pour donner des choses intéressantes. Ça arrive d'ailleurs en ce moment, avec ce dont on a parlé tout à fait au début. Mais je crois qu'il faut se méfier de l'expression de démocratie participative. Parce que maintenant, c'est devenu quasiment une marotte néolibérale. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, aux simples citoyens, aux citoyens ordinaires, de s'exprimer. Ouvrons grandes les vannes du débat et tout le monde s'exprime et on s'en félicite. On a vu tout à l'heure, vous l'avez dit, que, en effet, la ministre du Travail se félicitait de cela. Mais ça, ça n'engage pas à grand chose. Et la démocratie participative, c'est souvent un prétexte pour essayer de relégitimer artificiellement, au moyen de procédures techniques, la parole des professionnels de la politique. Nous considérons que la démocratie, c'est pour ça que nous mettons l'accent sur la démocratie réelle, l'expression qui est celle des indignés espagnols, nous considérons que la démocratie est par essence coparticipation des citoyens aux affaires publiques. Ça ne veut pas dire que la participation revêt exactement, toujours pour tout le monde, exactement la même forme, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie sans participation. Or, démocratie participative, ça tendrait à suggérer que il y a une autre démocratie à côté et que la démocratie participative, en quelque sorte, est une sorte de supplément d'âme.
Il s'agit d'œuvrer à une réinstitution de la société par la société elle-même. Ça veut dire quoi ?
Oui, alors réinstitution, bon, ça peut vouloir dire la création de nouvelles institutions politiques, et ça veut dire ça bien sûr aussi, mais il s'agit en quelque sorte de réactiver le pouvoir instituant de la société. C'est une expression qui est chère à Castoriadis, puisqu'il l'utilise à de nombreuses reprises, et il faut considérer que dans sa véritable dimension d'activité, ça signifie que la société se rend capable, par l'autonomie qu'elle manifeste dans ses débats, dans ses délibérations, dans ses prises de décision, de créer de nouvelles significations sociales imaginaires. En fait, nous appelons à réinventer l'imaginaire social, voilà, contre l'appauvrissement et la réduction de cet imaginaire au plan qui est celui de la sécurité du sécuritaire et puis de la compétitivité, puisque c'est le maître mot de toutes les politiques qui sont suivies.
Alors vous circulez beaucoup, vous faites beaucoup de conférences, etc. Ce groupe-là, comment vous percevez la situation en France aujourd'hui ? Est-ce que vraiment il y a ces mouvements dont on parle, beaucoup d'initiatives qui sont prises de cet ordre-là, et est-ce que ça peut à un moment donné se cristalliser ?
Alors ça, il ne nous appartient pas de dire si effectivement ça se cristallisera, mais effectivement ça peut se cristalliser. Notre initiative est destinée précisément à favoriser cette cristallisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives, la plupart du temps, qui ne sont absolument pas coordonnées. Je ne parle d'une coordination démocratique, hein, bien sûr, je ne parle pas d'une centralisation autoritaire. Mais Et souvent, ce sont des initiatives qui s'ignorent mutuellement. Il peut y avoir des expériences très intéressantes, comme par exemple ce qu'on appelle les villes qui sont engagées dans la transition citoyenne. Il y en a quelque chose comme 150 en France, mais l'initiative est partie d'Angleterre, hein, de certaines villes d'Angleterre. Bon, c'est très intéressant. Voilà, des gens qui essaient de reprendre par le bas, à partir d'initiatives de la part des citoyens, leur destin en main à l'échelon local, parce que la reviviscence de la démocratie, ça se fera d'abord et avant tout au niveau local. Donc je pense que c'est une initiative, celle que nous avons prise à beaucoup, en dehors de moi, je veux dire, qui peut favoriser.
Et le local, c'est pas du petit commun?
Non, c'est pas. Non, le local est directement branché sur des questions qui sont des questions d'intérêt public ou de commun au sens le plus large du terme.
Merci beaucoup, Pierre Lardot, d'avoir accepté notre invitation. Un temps plus calme et plus froid, des maximales qui iront de 5 à 9 sur la moitié nord et 8 à 14 sur la moitié sud. Édition réalisée avec Alexandre Motto, 17h, le magazine de la rédaction Les Balkans dans l'Europe, une si longue attente. Reportage en Albanie et au Monténégro de Bruno Caden, réalisation Yacine Bouzard, présentation Tara Schlegel. Prochain journal 18h avec Anne Fauquemberg.